Vous écoutez France Inter, il est 18h. Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline et les amis, à demain. Nous c'est parti, le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du jeudi 21 octobre, teinté COP26, ce soir avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à toutes et à tous.
L'essentiel commence ce soir avec des chefs d'entreprise en pleine transition.
Des chefs d'entreprise qui cherchent à mieux faire face au réchauffement climatique. Journée spéciale, vous l'avez dit aujourd'hui sur Inter, à 10 jours de la COP26 à Glasgow. Nous irons à Lille en début de journal où vont se réunir plusieurs fois par an 150 chefs d'entreprise pour réfléchir à la transition énergétique. Reportage à suivre. Le climat qui a tourné à la tempête hier soir sur le nord de la France, plusieurs centaines d'incidents sur le réseau SNCF et encore des dizaines de milliers de foyers privés d'électricité. Le point dans un instant. À suivre aussi une charte des bonnes pratiques pour les gynécologues, les indépendantistes kanaks qui plombent le référendum à venir sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et puis les 25 ans d'un album culte Motorbass et de l'électro et ce sera en fin de journal.
À 18h15, un jour dans le monde. Et la suite donc de cette journée pour le climat sur France Inter à 10 jours de l'ouverture de la COP26 en Écosse. Nous avons choisi 3 pays afin de voir comment ils s'alignent avant la COP. Qui se peint en vert? Qui avance vraiment? Nous irons en Grande-Bretagne, en Inde et en Norvège. Rendez-vous aussi en reportage au Costa Rica, l'état vert. Et puis 19h20, c'est le téléphone sonne avec cet appel de l'agence de biomédecine. Grande campagne de collecte d'ovocytes et de sperme. Ça commence aujourd'hui. L'agence cherche des donneurs et des donneuses au profil variés. C'est ce qu'on verra, ce dont on parlera ensemble. Appelez-nous, ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
Après les citoyens, c'est donc au tour des chefs d'entreprise de se réunir pour penser le monde de demain.
Oui, à l'occasion de cette journée spéciale, donc sur Inter, journée spéciale climat, nous avons fait le choix pour commencer ce journal de mettre en lumière cette initiative originale. On se souvient de la Convention citoyenne sur le climat, cette expérience démocratique inédite. Après la crise des Gilets jaunes, pour tenter d'apporter des solutions au réchauffement climatique, 150 citoyens qui réfléchissent à la baisse des gaz à effet de serre, eh bien c'est au tour des entrepreneurs de se mettre au boulot. On appelle ça la Convention des entreprises pour le climat. 150 entrepreneurs, là aussi, réunis plusieurs fois par an. Deuxième session aujourd'hui à Lille. Thème du jour, donner des clés pour passer à l'action. La prise de conscience avance, mais les solutions concrètes manquent encore. Reportage Léa Dubost.
Il y a les dirigeants d'entreprises déjà très engagés, d'autres qui ont encore beaucoup à faire, mais tous sont venus pour une chose, réfléchir collectivement pour mieux faire, car dans chaque secteur, il y a des blocages. Pour Assem Moula, gérant d'une entreprise d'isolation, c'est la prise de conscience de tous.
On a besoin de sensibiliser un plus grand nombre dans l'entreprise, évidemment, des salariés. On considère que pour changer un système établi, il faut à peu près 3,5% de gens conscients et éventuellement actifs pour faire un effet boule de neige, mais là, réellement, on n'a plus le choix.
Comment améliorer le choix des matières premières, comment bien choisir ses sous-traitants. Même avec toute la bonne volonté du monde, les entreprises se heurtent à certaines limites. Raphaël Zaccardi, directeur de Caterpillar France, fabricant d'engins de chantier.
Un des blocages aujourd'hui, c'est la technologie disponible. Les engins qu'on fabrique aujourd'hui commencent à être hybrides, donc dans une démarche plus vertueuse. Typiquement, quand on réfléchit à est-ce qu'on va aller sur des produits tout électriques ou tout hydrogène, on n'a pas encore les réponses, donc on engage des réflexions à plusieurs années en fait. Et donc là, il y a une notion de technologie disponible par rapport à investissements qui ont été mis en route et il faut donc accélérer ce mouvement.
D'autres entreprises parlent également de la difficulté de trouver un équilibre entre impact environnemental et rentabilité et aimeraient plus de soutien financier pour la transition écologique.
Léa Dubost a noté encore dans la perspective de la COP26 que les individus les plus aisés polluent bien davantage que les plus pauvres. Les 10% les plus riches sont responsables de la moitié des émissions planétaires de gaz à effet de serre. Révélation d'une enquête de l'ONG Laboratoire sur les inégalités mondiales. À l'opposé, la moitié la plus pauvre de la population mondiale est responsable de 12% des émissions.
Le climat qui s'est déchaîné lundi dernier sur une bonne partie de la France.
Un épisode rare et violent dans le nord du pays, des vents de 175 km/h en Seine-Maritime notamment. Pas de victimes à déplorer, mais beaucoup de toits et d'arbres arrachés, provoquant de grosses coupures de courant et d'importantes perturbations sur les routes et les voies ferrées. Bonsoir Hugo Charpentier.
Bonsoir Sébastien.
On en est où ce soir, Hugo, la nuit risque d'être longue pour des milliers de techniciens d'Enedis.
Oui, effectivement, même si ça avance pour rétablir le courant, le travail ne sera pas terminé ce soir, prévient Enedis. En début d'après-midi, 120 000 foyers étaient encore privés d'électricité, principalement en Normandie, dans les Pays de la Loire et en Bretagne. 4 000 techniciens, certains venus en renfort du sud du pays, sont actuellement mobilisés sur le terrain. La principale cause des coupures, c'est la chute d'arbres sur les lignes et forcément, ça risque de prendre un peu de temps pour déblayer les branches, puis pour réparer. Des arbres qui s'écroulent aussi sur les voies de chemin de fer, c'est ce qui a provoqué de nombreux incidents dans les transports. Alors si la circulation ferroviaire a pu reprendre à la mi-journée sur l'Île-de-France puis dans les Hauts-de-France, la SNCF annonce ce soir qu'il n'y aura pas de train entre Paris et la Normandie jusqu'à demain matin minimum. Les billets achetés aujourd'hui sont remboursables, échangeables sans frais jusqu'à samedi, précise la compagnie ferroviaire. Enfin, sur les routes, plus de 1200 km de bouchons cumulés ce matin dans tout le pays, niveau exceptionnel, et ben, on reste dans la même veine à l'heure où je vous parle. À la sortie du travail, on en est déjà à plus de 900 km de ralentissement, dont la moitié en région parisienne. Situation donc encore très compliquée sur la route ce soir.
Hugo Charpentier, merci. Plus aucun département n'est ce soir en vigilance orange, vent violent. Ajoutons à ces problèmes de circulation des trains une grève à la SNCF pour demain et ce week-end, lancée par 3 syndicats sur les salaires et les conditions de travail. Un TGV Atlantique sur 3 sera donc annulé samedi et dimanche et 1 sur 10 annulé ce vendredi. Ceux qui devront prendre malgré tout leur voiture ce week-end seront fixés ce soir sur le coût de leur plein d'essence. Jean Castex sera l'invité de TF1 pour annoncer les mesures du gouvernement face à l'envolée des prix, baisse des taxes ou chèque carburant. Réponse dans le JT de 20h. C'est une profession qui a été très secouée ces dernières semaines par une affaire de viol. Les gynécologues affectés par les révélations de l'affaire Darraï, ce spécialiste de l'endométriose à l'hôpital Tenon, visé par plusieurs plaintes pour viol et maltraitance physique et verbale. Alors pour restaurer un climat de confiance entre les gynécologues, les obstétriciens et leurs patientes, une charte des bonnes pratiques a été signée aujourd'hui, un document inexistant jusqu'alors qui insiste notamment sur deux points essentiels à Lise Cachaner, consentement et bienveillance.
Un moment d'intimité physique et psychique pour les patientes. La consultation de gynécologie n'est pas une consultation comme les autres, rappelle la charte en détaillant les bonnes pratiques.
Nous insistons sur le fait qu'il faut une écoute, une attitude et un examen physique dans un esprit de bienfaisance et de respect mutuel.
Joëlle Béali-Chalard, présidente du Collège national des gynécologues et obstétriciens français.
Il faut bien sûr un accord verbal de la femme et expliquer pourquoi on l'examine. Nous insistons aussi sur le fait que l'examen clinique n'est pas systématique. Par exemple, si une jeune fille de 17 ans vient parce qu'elle veut la pilule et qu'elle n'a pas encore eu de rapport, on ne va pas l'examiner.
La médecin encourage donc à afficher cette charte au maximum dans les cabinets et maternités. Une démarche saluée par le collectif Stop aux violences gynécologiques. Mais pour Sonia Biche, la fondatrice de ce mouvement, il faudra plus que des mots pour restaurer la confiance.
Nous recevons tous les jours des dizaines de témoignages. Nous pensons qu'il serait plus efficace de changer la formation des professionnels de santé, une charte qui est placardée sur les murs, sans garantie d'application, c'est pas suffisant.
Gynécologues, obstétriciens et patients rédigent actuellement de nouvelles recommandations pour la pratique clinique. Un travail de grande ampleur dont les résultats seront publiés d'ici un an.
Alice Cachaner, améliorer encore le dépôt de plainte pour les femmes victimes de violences conjugales ou de viols. C'était l'objet aujourd'hui d'un déplacement du ministre de l'Intérieur à Avignon, Gérald Darmanin, qui a reconnu la persistance, je cite, ici ou là, de difficultés et qui a rappelé que l'avocat est quoi qu'il arrive autorisé lors d'un dépôt de plainte. La dose de rappel pour le vaccin anti-Covid est très efficace. La troisième dose permet de faire remonter ce taux à 95%. Résultat d'une étude sur 10 000 personnes publiée en France aujourd'hui. Efficacité prouvée aussi sur le variant Delta. C'est une claque pour le gouvernement. En Nouvelle-Calédonie, à un mois et demi du troisième et dernier référendum sur l'indépendance, le 12 décembre prochain, les indépendantistes du FLNKS sont appelés aujourd'hui à ne pas participer à la consultation et demandent le report en 2022, à cause de l'épidémie de Covid que traverse l'archipel, 250 morts depuis le début du mois de septembre. Le ministre Sébastien Lecornu a pourtant passé plusieurs jours sur place à tenter de convaincre chaque parti de s'impliquer dans la campagne. Peine perdue, écoutez Jean Crenier, les porte-parole du FLNKS.
Aujourd'hui, on dit que la campagne elle est inéquitable parce que les gens sont perturbés. Il y a les vaccins, il y a les décès, il y a les passes sanitaires. Les gens ne sont pas sereins pour pouvoir nous recevoir et prendre leurs décisions. La crise sanitaire s'est invitée, c'est un événement exceptionnel. Donc, on a encore le temps d'organiser la consultation, il faut la reporter. C'est l'objectif de M. Macron, de pouvoir clôturer l'accord de Nouméa sous son quinquennat, de pouvoir tracer une autre feuille de route après cette troisième consultation. Seulement, pour pouvoir tracer cette feuille de route, il faut avoir les deux camps assis autour de la table. Et si cette consultation est maintenue pour le 12 décembre, nous allons considérer qu'on nous a volé notre victoire parce que nous n'avons pas pu faire cette campagne correctement. Donc, nous ne serons pas en bonne condition pour discuter sereinement de l'avenir du pays. C'est ça qu'il faut aussi intégrer.
Jean Crenier, porte-parole du FLNKS avec Mathilde Dehimi. Des réquisitions lourdes contre Karim Benzema au procès de la sextape de Mathieu Valbuena. Le procureur a demandé 10 mois de prison avec sursis, 75 000 euros d'amende pour complicité de tentative de chantage. Au chapitre judiciaire encore, mais au niveau européen, cette fois, la Pologne faisait face aujourd'hui aux 26 autres pays de l'Union lors d'un sommet à Bruxelles. La Pologne, on le sait, dans le viseur de Bruxelles pour ses réformes judiciaires très controversées et pour avoir déclaré que la constitution du pays était incompatible avec le droit européen. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir Sébastien.
En direct de Bruxelles, alors après des heures de discussion, Marie-Pierre, les dirigeants européens ont alterné entre fermeté et main tendue.
Voilà, et avant d'entrer dans la salle du Conseil, le Premier ministre polonais a lui-même planté le décor. Le dialogue plutôt que le chantage. Ça tombe bien, les autres dirigeants aussi privilégient le dialogue, même s'ils affichent leur fermeté sur les principes. Emmanuel Macron l'a redit en tête-à-tête à Tadeusz Morawiecki dès son arrivée. Tous attendent à présent une explication du Premier ministre polonais, comme le Belge Alexander De Croo.
La première question que moi j'ai, c'est de demander à mon collègue polonais, quel futur voyez-vous en Europe ? On ne peut pas faire partie d'un club et dire les règles, ça ne s'applique pas à moi.
Car certains poussent à un dialogue musclé. Le Premier ministre luxembourgeois, par exemple, Xavier Bettel.
On ne va pas maintenant tout faire foirer juste parce que quelqu'un a des intérêts nationaux. On doit se mettre autour d'une table, trouver une solution, mais on ne doit pas non plus remettre en question l'épine dorsale de l'Europe.
Et cette épine dorsale, c'est l'égalité des droits entre tous les citoyens européens, garantie par la Cour de justice de l'Union. Pas question donc de s'asseoir sur ces décisions. Mais fermeté ne veut pas dire rupture. L'arme des sanctions financières doit rester une arme de dissuasion. La chancelière allemande, dont ce sera sans doute le dernier sommet, en a d'ailleurs privilégié le travail de conviction pour ramener la Pologne à la raison. Éviter un choc frontal, de fait, c'est dans l'intérêt de tous.
Marie-Pierre Véraud à Bruxelles avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Un retour au bercail pour ce grand patron de presse à 79 ans. Jérôme Bellet reprend les rênes du JDD après l'éviction surprise hier d'Hervé Gattegno. C'est Patrick Mahé qui prendra la tête de Paris Match. Le centre Beaubourg lui restera ouvert pendant les Jeux Olympiques à Paris. Les travaux de rénovation prévus en 2023 ont été reportés et ne commenceront donc pas avant 2024.
C'est un album culte de musique électronique qui est désormais disponible sur toutes les bonnes plateformes.
Musique électronique française et qui est désormais effectivement disponible depuis aujourd'hui. Un album qui fête ses 25 ans, le premier et unique album du duo Motorbass, sorti un an avant celui des Daft Punk en 1996. Le groupe est alors composé de Philippe Sdar, qui fondera ensuite Cassius, Philippe Sdar décédé tragiquement en 2019, et composé également d'Étienne de Crécy, qui créera ensuite le projet Super Discount. Retour sur cet album fondateur avec Mathieu Culeron.
Philippe Sdar va mixer le premier album de MC Solar avec Hubert Boumbass, coproducteur du disque, au début des années 90. C'est dans le studio du père de Boumbass qu'il rencontre Étienne de Crécy. Ils décident alors d'habiter ensemble dans une grande colocation et vont monter le duo Motorbass. Sans le savoir, ils viennent de poser les fondations de ce qu'on va appeler la French Touch. Étienne de Crécy.
Donc on était en coloc avant de découvrir la techno. C'est la techno qui nous a rapprochés. Donc on a vécu toute cette période-là ensemble, effectivement. C'était complètement expérimental et on était là pour faire de l'expérience. À aucun moment on imaginait pouvoir gagner notre vie avec ça. Et c'est finalement, c'est en 3-4 ans, si tu veux, que le truc se renverse et tout d'un coup ça devient un gros mouvement, un mouvement de fond. Il n'y a pas de synthé pratiquement dans Motorbass. Grosso modo, il n'y a que des samples. Et c'est un peu comme les trucs de hip-hop. Quand tu additionnes toutes les textures, c'est-à-dire tout d'un coup ça fait un son qui est très très riche.
Motorbass sort l'album Pound Soul en 1996. Un an plus tôt, les Daft Punk ont sorti le morceau Daft Punk. Une musique underground devient populaire. Étienne de Crécy se souvient de l'esprit de l'époque.
Il y a des gens qui disaient que c'était pas de la musique. Et quand on allait dans les raves, si tu veux, moi j'étais ressorti de là en me disant que c'était un truc qui ne pourrait pas parler à tout le monde.
Et on disait,
mais tu t'imagines, peut-être un jour les gens ils contrôlent la techno dans les manèges, place des Abbesses et tout, et on était morts de rire. Et en fait, bah, c'est le cas quoi aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que c'est assez rigolo.
Pansoul de Motorbass fête ses 25 ans en arrivant sur toutes les plateformes de streaming, le début d'une épopée qui amènera ce genre musical au sommet des charts mondiaux.
Voilà les 25 ans de Motorbass à écouter dès maintenant sur les meilleures plateformes en ligne, Fabienne.
Merci beaucoup Sébastien Le Génie. On se retrouve tout à l'heure dans Un jour dans le monde. Vous nous parlerez notamment d'un mouvement Arabs Lives Matter sur le modèle de Black Lives Matter, un mouvement qui se répand en Israël en ce moment. Ce soir, nous faisons un tour du monde rapide des pays vertueux ou pas à 10 jours de la COP26. Trois choix, trois pays que vous découvrirez dans un instant. Et puis le téléphone sonne, appel au don de sperme et d'ovocytes. L'agence de la biomédecine lance aujourd'hui la plus grande campagne jamais lancée sur le sujet. Depuis 3 mois à peine que la loi bioéthique est adoptée et ouverte aux femmes seules et aux couples de femmes, la demande est très importante. Et ce que cherche l'agence de biomédecine, c'est vraiment intéressant, ce sont des profils de donneurs, des profils plus variés, parce que donneurs et donneuses sont majoritairement blancs. Voilà un joli sujet, des questions passionnantes. On vous attend au 01 45 24 7000. Un œil sur la météo en attendant.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Et Elodie Calac, bonsoir. Un temps plus calme, avec des éclaircies même.
Les frontières du nord, le soleil sera contrarié par nuages bas et brouillard le matin. L'après-midi, on aura un ciel nuageux. De la Vendée et des Charentes vers la Bourgogne, l'Alsace, là vous aurez du soleil toute la journée, juste un petit peu de brouillard le matin vers l'Alsace. Le soleil sera généreux aussi en Méditerranée, sur les Alpes. Le bémol, ce sera le vent en Méditerranée, Mistral, Tramontane assez fort demain. Et puis du sud-ouest vers le Jura, le Lyonnais, là ça sera plus compliqué avec un ciel très nuageux le matin. Quelques averses, mais ça s'éclaircira quand même doucement l'après-midi.
Et sinon, Elodie, il fera plus frais.
Oui, surtout le matin, pas plus de 1 à 5 degrés sur les régions du nord, avec quelques gelées possibles par endroit. Encore 9 à 15 au sud. Et puis l'après-midi, ça sera un petit peu juste pour la saison. 12 à 16 degrés au nord, 14 à 18 au sud et encore 21 à 23 en Méditerranée.
Elodie Calac de Météo France, merci beaucoup. Elodie, on se retrouve tout à l'heure après 19h.